Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Bonjour à tous, vous voici dans un numéro un peu spécial d'Alternative Football. Je suis Maxime Marchon, le rédacteur en chef de ce podcast, celui qu'Edouard et Mathieu aiment appeler la conscience. Et pour passer les fêtes, on vous a donc concocté un petit best-of des 27 premiers épisodes. Au menu, une sélection par Mathieu et Edouard des meilleurs échanges avec leurs différents intervenants. Sans plus attendre et sans surprise, on commence avec le numéro 1, consacré à l'intelligence artificielle. Dans lequel Mathieu Rosenbaum pointe en finance, prof à l'école polytechnique et initiateur d'un programme avec le Paris Saint-Germain, nous en donnait la définition. Il nous donnait aussi un début de réponse à la question fatale : les robots vont-ils prendre la place des entraîneurs ?
C'est quoi un algorithme exactement ? Parce qu'on l'entend, mais j'aimerais bien que tu le définisses.
Tu poses une très bonne question. Tout le monde utilise les termes algorithme, tout le monde utilise les termes d'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est des termes qui sont extrêmement vagues et qui retrouvent plein de choses. L'aspect commun, on va dire, sur ces termes-là et sur l'intelligence artificielle, c'est l'idée d'utiliser une analyse un peu systématique et automatisée qui se base sur l'étude des données et qui utilise des compétences mathématiques et informatiques pour aider à la décision. Voilà, donc il n'y a pas... Intelligence artificielle, c'est un terme à la mode, mais qui regroupe énormément de choses. Il n'y a pas de vraie définition. Et l'ensemble des outils qui permettent de prendre des décisions de manière un peu systématique, automatique, on va appeler ça intelligence artificielle.
D'accord. Non, je pense que le terme clé que tu as utilisé, c'est la prise de décision. Et je pense que là, on peut faire une première analogie avec le foot. Celui qui prend les décisions dans le foot, c'est le coach. Ce coach-là, avec aujourd'hui ce qui se passe dans l'analyse de données et dans l'IA, est-ce qu'il est condamné un jour à partager la décision avec un logiciel, avec un algorithme, avec quelqu'un dont c'est le métier et qui sera intégré à son staff?
Alors Matt, condamné, je pense que c'est pas le bon mot. Plutôt, c'est une chance et les premiers qui le feront auront pris un peu d'avance sur les autres. En fait, il faut comprendre que donc l'intelligence artificielle, c'est un outil qui apprend du passé. Donc ma manière de le concevoir, en fait, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une forme de coach qui regarde des vidéos. Alors, sauf que c'est pas des vidéos classiques. Enfin, ça peut être des vidéos classiques, mais où ça peut être juste des bases de données. Et l'outil va essayer de comprendre des dynamiques, de comprendre comment les joueurs se comportent, de comprendre des situations à partir de l'étude des données. Données qui peuvent être des données un peu brutes, hein, c'est-à-dire des données sur des statistiques sur les joueurs, etc. ou qui peuvent être des données un peu plus complexes, des vidéos, etc. Et en fait, pour moi, cet outil d'intelligence artificielle, qui est comme un coach, je regarde des vidéos, c'est simplement qu'il a des lunettes qui sont pas les mêmes que celles du coach. Et en général, ces lunettes, elles sont beaucoup moins bonnes que celles du coach. Il y a plein de choses qu'il va être incapable de voir que n'importe quel bon coach aurait vu. Mais ce qui peut se passer de temps en temps, c'est qu'il va détecter des situations, des choses systématiques que le coach n'aura pas vu parce que c'est subtil. Et le coach va pouvoir se servir de ça afin d'optimiser ses décisions. Donc, faut vraiment pas le voir dans l'idée on va remplacer les coachs parce qu'on ne le fera jamais. C'est vraiment un outil d'aide à la décision qui va pouvoir mettre en évidence certaines situations, certaines combinaisons que peut-être le coach n'aurait pas vu.
En 2016, SoFoot plaçait le modèle F300FG de Kipsta à la dernière place d'un top 10 consacré aux chaussures de foot. Cette année, la marque foot de Decathlon fournit le ballon officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Alors on s'est demandé comment une telle métamorphose s'est opérée. Pour le savoir, Edouard et Mathieu ont convié le boss de la marque française, Frédéric Boistard, pour en savoir un peu plus sur cette mue et le positionnement de l'équipementier Kipsta vis-à-vis de ses concurrents Nike ou Adidas. C'était dans l'épisode 16 d'Alternative Football.
Quand on parle de Kipsta, par exemple, moi, mon fils, par exemple, il a des produits Kipsta. Il fait du foot, c'est pratique, c'est top. Moi, j'en ai jamais eu, produits Kipsta.
Ouais.
Est-ce que je peux être la cible Kipsta ? Est-ce que quand tu conçois... Quand vous concevez des produits, vous dites, voilà, le papa de 40 balais, il peut le faire. Le joueur professionnel, ça peut être une cible, vu que maintenant, vous êtes sponsor de la Ligue 1, enfin, ballon de la Ligue 1. Est-ce que ça peut être une target, le monde professionnel, le football professionnel,
oui.
Ça peut être une target. Si oui, comment vous allez vous y prendre ?
En fait, ce n'est pas une target juste pour dire on est présent et on s'anime sur le fait de dire on a 40 joueurs, on a X% des joueurs de Ligue 1. Moi, honnêtement, ces chiffres-là, je ne les connais pas et ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est d'avoir suffisamment de joueurs pro, Ligue 1, Ligue 2, Jupiler League, peu importe, qui sont non pas des sponsors, on n'est pas des sponsors, mais on est des partenaires techniques. Et encore une fois, moi, mon sujet, c'est de démontrer, de vérifier avec eux, avec leur exigence au quotidien, que si 15 joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2 portent des produits Keepsta et qui valident réellement, bah globalement, 99% des joueurs amateurs du monde entier, ils ne devraient pas avoir de problème avec un produit Keepsta. Là où auparavant, comme on n'avait aucune caution technique, aucune personne pour valider le fait que la chaussure répondait bien aux usages les plus exigeants, bah c'était douteux. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver en disant « Tiens, cette chaussure-là, elle coûte 50€ ou 60€ et nous, on te dit qu'elle vaut l'équivalent d'une chaussure d'une autre marque deux fois plus chère. Bah, » tu me le dis, ok, tu fais ton job de commerçant. Non, mais en fait, on ne te le dit pas simplement. Tiens, regarde, lui, gardien de Ligue 1, lui, joueur de Ligue 1, lui, joueur de Ligue 2, il joue exactement avec cette chaussure-là. Et un des points qui est très singulier, qui est particulier chez nous, c'est qu'on est la seule marque au monde à permettre à des joueurs pros, alors permettre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui donnons à des joueurs pros des chaussures qui coûtent moins de 100€, même bien moins de 100€, et qui sont exactement les mêmes que celles que vous allez avoir en magasin. C'est-à-dire que toi, Edouard, tu le sais peut-être très bien, mais les chaussures avec lesquelles tu jouais, elles coûtaient en général entre 200 et 300€. Mais ces chaussures-là, elles étaient rarissimes dans les magasins. On les trouvait très peu parce que les stratégies des autres marques, c'était plutôt de faire un modèle à 150, un modèle à 100, un modèle à 80, etc.
Et t'as encore ça sur les maillots, t'as le stock pro qui est différent du maillot imitation pro qui est vendu et qui est différent du stadium.
Nous, notre job, c'est pas de différence entre l'amateur, qui peut être un amateur de très bon niveau, on peut être un joueur de National, National 2, CFA 2, et vraiment avoir ses vrais besoins. On fait pas de différence, on veut leur donner les mêmes caractéristiques.
Non, mais t'as dit un truc intéressant, je pense que c'est allié aux stratégies Nike et Adidas, c'est aujourd'hui sponsoriser Mbappé, sponsoriser Messi, Ronaldo. Ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, pour pouvoir financer ça, il faut avoir une politique de prix qui te permet de le supporter.
Une répercussion.
Et je pense que l'arbitrage, il se fait aussi à ce niveau-là. Et après, pour être totalement complet, quand on est dans le sujet des marques, on est beaucoup aussi sur l'ADN. C'est-à-dire que demain, j'imagine que c'est très difficile pour Nike et Adidas de dire, vous savez quoi, le sponsoring, on arrête. C'est plus nous. Et Nike, on va faire que de l'ino et on va être la marque de l'ino. Ou Adidas, on va être la marque historique, la marque de l'héritage, c'est un peu déjà ce qu'ils font, mais on va arrêter de sponsoriser les nouveaux mecs. C'est un tel shift en termes d'identité. Tu t'attends en tant que fanboy Nike, je suis concerné parce qu'ils peuvent me vendre à peu près tout ce qu'ils veulent. J'attends de la marque Nike qu'elle sponsorise. Le meilleur footballeur du monde. J'attends de la marque Adidas à peu près la même chose.
C'est leur strat. Mais en fin de compte, c'est la question que je vais te poser. Nike, en fin de compte, ils ont un côté aspirationnel. Vous, Keepsta, vous ne l'avez pas encore. Et est-ce que vous aussi, vous allez essayer de... Tu vas travailler sur ça ? Grosso modo, si je porte du Keepsta, je dois ressentir quoi ? Enfin, je suis quoi ?
Là, je ne sais pas te répondre précisément aujourd'hui. Par contre, je vais te répondre en disant que la plupart des marques du football aujourd'hui sont très très fortes sur l'émotion qu'elles génèrent et l'aspect pur rationnel, donc tu disais tech tout à l'heure, finalement ça arrive au deuxième ou troisième niveau, c'est un choix et ça fonctionne bien, c'est eux les leaders aujourd'hui. Nous, dans notre manière de concevoir les choses, on a fait exactement l'inverse. En fait, on a voulu mettre du rationnel à tous les niveaux en disant « Non, mais l'émotion... » Et donc, en fait, simplement, ce que je suis en train de dire et ce qu'on essaie de construire tranquillement avec la marque Keepsta, c'est de mettre beaucoup, un peu plus d'émotion. Je ne sais pas s'il veut dire beaucoup, mais en tout cas, un petit peu plus d'émotion au milieu de cette rationalité, des critères très objectifs. Ouais. Justement parce qu'on se rend compte que le football, c'est
des émotions, c'est ça.
C'est avant tout des émotions. Et donc, on ne peut pas simplement arriver avec un discours purement scientifique, mais on ne veut pas non plus nous arriver en disant que les émotions, parce que ça, d'autres le font très bien et le feront mieux que nous avec d'autres moyens. Et donc, nous, en tout cas, notre sujet, c'est, on va prendre un exemple, mais une chaussure de foot en moyenne pour un joueur, pas un joueur pro, mais un joueur qui joue régulièrement, c'est quelques mois. C'est quelques mois. Au bout d'un moment, ça se décolle, ça se déforme.
Je te coupe simplement deux secondes, parce que du coup, je pose la question à Edouard. Tes chaussures, tu les gardes combien de temps ?
Je sais pas. Mais en fin de compte,
merci, tu vois, quand tu nous as vachement aidé là.
Parce que non, mais pourquoi? Parce que quand t'es sponsorisé, limite, il y a toujours des modèles. T'as 3-4 modèles par saison, donc ils te les envoient à chaque fois. Même tes chaussures, elles sont pas usées.
Ouais, tu
donc,
changes
tu les
quand
reçois,
même.
Tu changes
t'as
quand
pas
même.
Le même comportement quand voilà. On te donne des pompes et tu peux en plus en donner aux jeunes du centre, aux copains, etc. Ouais. Tu peux en faire profiter
autour de toi. Moi, j'ai jamais payé
mes
chaussures, mais si tu dois payer tes chaussures, tu réfléchis à deux fois quand t'achètes une paire à 200 balles. Tu veux qu'elle tienne toute l'année, sauf que tu l'utilises tout le temps, elle ne tient pas toute l'année.
Non, on va dire qu'un joueur, un bon joueur qui va s'entraîner, on va dire, 3 fois semaine, qui va faire un match, ça va durer 6 mois maxi. Ça va durer 6 mois maxi. Ben nous, tout à l'heure, quand je vous disais c'est quoi les problématiques du quotidien, pour nous, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et donc, nous, notre sujet, c'est d'investir en recherche et développement pour dire ta pompe, elle sera toujours aussi bonne qu'avant. Tu auras les mêmes sensations si tu veux un truc microfibre, seconde peau ou du confort. Donc ça, on ne va pas toucher à ces critères qui sont obligatoires. Par contre, on va faire en sorte que ta pompe elle puisse durer une saison et demie, 2 saisons. Et donc, c'est aussi...
Jusqu'où ça peut aller. En termes de tech, aujourd'hui, est-ce que tu as des projections qui disent un jour, je serai capable de faire une pompe qui va durer 5, 10, 15... Bon, je force peut-être un petit peu.
Non, mais alors...
toute ma carrière, c'est pas mal.
On a une chaussure qu'on va commercialiser, qu'on va garantir 10 ans contre le décollement. Le décollement, c'est simplement entre la semelle et la tige. C'est la première raison de renouvellement d'une chaussure, c'est qu'on fait un trou, le pied gauche, il frotte, ou ça se décolle. Et donc, cette chaussure-là, avec des brevets qui va être lancée en début d'année, celle-ci, on va la garantir 10 ans.
Quel est le point commun entre gérer un transfert d'un joueur de foot et acheter du PQ pour les toilettes des bureaux? Aucun, ou presque. Il s'agit là du quotidien d'un directeur général d'un club de foot moyen de niveau Ligue 1, Ligue 2. Pour avoir une réelle vision de ce poste-clé et de son champ d'action au quotidien, Mathieu et Edouard ont donc souhaité convier Pauline Gamer, l'ancienne directrice générale du Red Star. C'était dans l'épisode 20 d'Alternative Football et elle nous racontait comment elle veillait à garder une certaine distance entre les joueurs d'un côté et le personnel administratif de l'autre.
Il y a en fait un vrai point de vigilance pour une bonne structuration. C'est qu'en effet, à un moment ou à un autre, tout le monde est attiré par le terrain. Tout le monde est attiré par la lumière. Tout le monde est attiré par se rapprocher des joueurs. Et là, souvent, où ça dérive dans les clubs, moi, vous savez, la petite anecdote, je me rappelle, c'est... À 8h05 avant le match, les joueurs vont sortir du vestiaire, ils vont aller dans les couloirs, puis t'as les caméras qui sont là, etc. Puis souvent, je voyais, il y avait plein de salariés du club qui, comme par hasard, à ce moment-là, tout le monde avait besoin d'être dans le couloir des vestiaires. Et les joueurs sortent, et vas-y que je te tape sur l'épaule, et vas-y que je te tape dans la main, et vas-y, ah ouais, toi tu vas marquer ce soir. Cette excitation d'être dans le moment qui précède l'entrée sur le terrain, où on se sent un peu joueur. Moi je passais à 8h05, je faisais le ménage, allez, tout le monde dehors, toi t'as pas à être ici, toi t'as pas à être ici, toi t'as pas à être ici. Et en effet, il faut comprendre que ta place, elle est pas sur le terrain. Ton travail au quotidien, c'est de mettre les gens qui sont sur le terrain dans les meilleures conditions, mais ta place, elle est pas là. Il faut que tu restes dans ton cœur d'activité. Et c'est vraiment un travail du quotidien, parce que souvent, tu dérives un petit peu pour te rapprocher des joueurs. Et puis les joueurs, ils en profitent aussi. Hein. Ils savent qu'ils peuvent avoir certaines choses.
Nous, c'est pareil. Dans tous les clubs où je suis passé, on faisait attention. Enfin, les gars, les directeurs sportifs faisaient attention à ce qu'il n'y ait pas trop... Nous, c'était l'extrême. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait même pas les gens de l'administratif. Je trouve que c'était too much. Je trouve que c'est too much parce qu'on fait partie d'un club. Et même, ils nous faisaient, on était dans un vase clos, d'un autre côté, il ne fallait pas se mélanger. Même parfois, il y avait des blâmes pour les gens de l'administratif qui nous... Une anecdote, je suis à Marseille, j'ai une vieille amie que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, et je décide de manger avec elle. On se pose, et en fin de compte, elle me dit, là, tu es en train de me causer des problèmes. Bah, je dis, pourquoi ? Non, mais parce que normalement, on n'a pas le droit. Je dis, bah, c'est bizarre, on bouffe tous ensemble, je ne vais pas bouffer d'un côté et vous laisser de là. Et on m'a fait comprendre que... Pour aujourd'hui, c'est cool, mais la prochaine fois, ce serait plus sympa quoi, de pas vous mélanger. Pourquoi ? Parce que si je déjeune avec mon ami, un autre va vouloir manger avec un autre, enfin, et c'est le bordel. Et je trouve que c'est too much.
Ouais, faut trouver le bon équilibre, faut pas priver les administratifs, en effet, de partager des choses avec les joueurs, mais il faut trouver le juste positionnement. Mais il y a beaucoup de choses hein, qui se font. Moi, je sais, c'est Marco Simone qui me racontait ça, par exemple. Alors, tout ne se fait pas avec l'argent, mais l'argent est un critère aussi important. Hein. Quand le Milan AC était champion d'Italie, tout le monde touchait une prime.
Mais ça,
du joueur à la secrétaire.
Super important.
Super important pour
impliquer tout le monde.
Bien sûr. Parce que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice.
Je disais, c'est pour nourrir 100%. C'est-à-dire pourquoi j'ai fait en sorte de... Parce que je suis incentivé sur le fait que si on gagne, on gagne tous ensemble et que j'y ai participé.
Mais donc voilà, il faut trouver ce bon équilibre entre rester à sa place, mais malgré tout pouvoir partager un certain nombre de choses avec le sportif, parce que si on bosse dans un club de foot, c'est qu'on adore ça, et qu'en effet, si tu le mets totalement à part avec cette opposition qui existe beaucoup, pour moi qui est néfaste, hein, sportive-administratif, où on mélange pas les gens, ils se parlent pas, ils se comprennent pas, je pense que c'est très mauvais aussi. Mais donc ce jeu d'équilibre, ça c'est un rôle important du DG, et c'est veiller au quotidien, mais ça c'est vrai dans toutes les boîtes, où chacun est bien dans sa sphère d'activité. Et puis à un moment, s'il n'est pas bien dans sa sphère d'activité, ben, et qu'il veut tout le temps déborder, ben, va déborder ailleurs.
Autre sujet abordé dans Alternative Football, les émissions de foot à la télé. Comment sont-elles imaginées? Comment sont-elles construites? Comment sont-elles fabriquées? Édouard et Mathieu ont abordé le sujet dans l'épisode 10 avec Laurent Salvaudon. Passé par l'équipe du soir, Bein Sport, J+1 sur Canal+, il est désormais directeur de la rédaction des chaînes RMC Sport et il nous a livré ses secrets pour recruter ses consultants.
Jérôme, il regardait les matchs de Ligue 2, il savait tout. Mathieu, c'est pareil aussi. C'est vrai que il consomme du foot, il consomme du foot encore. Et effectivement,
il regarde le U17, il regarde le U19. Ouais, il est au courant des pépites du championnat des Pays-Bas ou de Belgique quand on parle avec lui, ou de Norvège.
Ouais, ouais.
Il a un logiciel qui s'appelle Y-Scout, comme les scouts, et il regarde des matchs un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a le fond. Comment tu es capable d'analyser une situation immédiate? Si la balle, elle passe à côté, la frappe, est-ce que c'est parce que l'attaquant avait le pied d'appui mal fixé? Est-ce que c'est parce que le défenseur lui bouchait l'angle et l'a forcé à croiser? Est-ce que c'est la pelouse? Est-ce qu'il n'a pas levé la tête? Ça, de le détecter dans l'immédiateté, tu sais que le mec peut commenter. Mais ça, c'est dur à trouver.
Ouais, c'est pas évident.
C'est les qualités, c'est les qualités d'un scout. L'analyse immédiate.
Exactement.
Okay, et le plateau, c'est les qualités d'un directeur sportif. Quelqu'un qui est plus dans la mesure, dans le recul, qui va se souvenir qu'il y a 4 matchs, c'était passé comme ça, il peut voir l'évolution d'un mec, et en plateau, il a eu 20 minutes pour réfléchir pendant le match, pour revenir et dire clic, clac, clac. Donc, directeur sportif, c'est plus la partie plateau, et je dis ça aux joueurs, scout, c'est l'analyse immédiate. Ça, c'est le fond. Et après, il y a la forme. Comment tu l'exprimes? Avec empathie, avec un peu de chaleur, t'es capable de mettre un peu d'humour? Voilà mes critères pour décider si je prends un mec. Mais pour le savoir, il faut bien que je le teste. Donc non, on ne fait pas des tests à blanc. Non, on ne fait pas des commentaires à blanc l'après-midi. C'est au contact du live et de l'imprévu que je vais le savoir. Mais pas tout de suite. Il y en a certains, au bout d'un match, je vais dire taper sur l'épaule, je vais faire « Écoute, on va en faire un deuxième, mais il est possible que ce soit compliqué, je ne suis pas sûr. » Le mec va aussi souvent te le dire toi-même.
Le ressentir.
Je ne me suis pas senti bien, je n'ai pas l'impression que ce soit pour moi. On va laisser plutôt en plateau. Il y a d'autres cas, c'est l'inverse. Au bout de 10 minutes de plateau, tu tapes sur l'épaule de ton collègue, tu fais « Lui, c'est bon déjà, c'est bon. » Il a le fond, la forme, et il a le bagage, il regarde tout, donc il connaît les joueurs. Il y a différents types de consultants. Il y a l'ancien joueur, il y a l'ancien directeur sportif, il y a aujourd'hui des pistes qui se creusent avec des analystes et des gens qui sortent du milieu du foot. Ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, c'est d'avoir une écriture de la chaîne qui soit le plus proche possible de ce qui se fait dans les clubs de foot. J'ai une discussion avec la rédac la dernière fois. Le deuxième gardien d'Arsenal a été acheté 30 millions d'euros. Ça fait beaucoup rire. On se fout de la gueule de l'équipe de recrutement d'Arsenal en s'appuyant sur des stats, en disant « Oh, il n'a pas fait un clean sheet depuis un an, etc. » C'est vrai que sur le papier, ça paraît un peu bizarre. Maintenant, la nouvelle façon de bosser pour moi, c'est de dire « Ok, stop. » On se pose et on se dit que si ces gens-là qui font ça 24 sur 24 ont fait ce choix à ce prix-là, c'est qu'il y a forcément des raisons. Et donc là, c'est bien d'avoir dans tes consultants des gens qui vont se servir de la data, qui vont connaître le marché, qui vont savoir le profil du gardien, les gars. Sortir des gens du foot, c'est intéressant parce qu'ils bossent dans le foot. Je trouve intéressant le fait d'être un peu droit dans nos baskets et de juger et d'évaluer le football, où on peut faire perdre des emplois à des gens, des entraîneurs qui ont une famille derrière, en ayant, nous, le maximum d'informations qui nous permettent de juger avec justice et un peu de droiture. On a une carte de presse, quand même. Donc, pour ça, il faut aussi développer notre manière de bosser, puisqu'aujourd'hui, des outils se présentent. J'en parle avec des gars dans des clubs. Je parle beaucoup avec les dirigeants. Et toi, Edouard, tu le sais, il y a encore 10 ans, il y avait l'entraîneur dans un staff, le kiné, un préparateur physique, un entraîneur de gardien, et basta. Aujourd'hui, il y a des analyses sur la performance sportive, il y a des performances, la performance physique, des mecs qui vont upgrader ta musculation. Dans le moins, les gars,
des coups de pied arrêtés,
voilà, de la touche
c'est
à Liverpool.
C'est morcelé.
Ça travaille la touche, séquence par séquence. Si toi, avec tes équipes, tu es au courant de ça, tu es au courant de qui fait quoi, comment, c'est plus facile derrière d'amener un jugement si en plus tu as la data. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ramsdale, qui a été acheté 30 millions d'euros ou de livres, je ne sais plus, aujourd'hui est le titulaire Arsenal et il reste sur 3 clean sheets. Donc en fait, il ne faisait pas clean sheet en D2, il était nul, mais maintenant il fait 3 clean sheets en première division, il est super bon. Sauf que on avait regardé la statistique qualitative du garçon et pas que la statistique quantitative, clean sheet, Edouard, si tu as 4 défenseurs qui sont pourris, tu vas pas faire un clean sheet, même si t'es le meilleur gardien du monde.
Aller au-delà de la stat, c'est creusé en fin de compte. C'est ça.
Et on s'aperçoit que le gardien en fait était super bon et que le choix était bon.
Et du coup, que ce soit footissime ou d'autres, tu nous parlais d'équilibre entre ton ADN, qui est la création, hein, et le retour du public. Est-ce qu'il t'est arrivé au cours de ta carrière de créer des émissions sur une pulsion, en te disant, sans nécessairement regarder ce que le client veut, mais tu dis, ça, je sais que ça va marcher, et j'allonge ma question en amenant l'intégrant succès, c'est J+1, par exemple.
C'est quelque chose qui a mûri dans la tête de Canal, à l'époque, Cyril Linette, Paul Elkaïm, Karim Nedjari. Il cherchait un concept le lundi soir. Il y avait une émission qui s'appelait, je crois, Total Ligue 1, quelque chose comme ça, qui était une espèce de BD qui retraçait la journée. Ils n'en étaient pas satisfaits. Donc moi, je bossais à Beansport et ils m'ont demandé, en gros, Karim Nedjari, que je connais de longue date, m'a demandé si j'avais une idée de concept. Je lui ai présenté, c'était dans le 18 d'ailleurs, mon idée qui mûrissait depuis quelques temps. En fait, aujourd'hui, les émissions de télé sont vachement uniformes. Il y a une table, des gens qui parlent, souvent, enfin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fameux modèle. Et moi, ce que j'avais envie de faire depuis un moment, c'était de réfléchir autrement. C'était d'avoir une espèce de boîte à rubriques, chacune différente, et qu'elle soit la base, via du rubriquage, d'une émission. Donc, c'est une façon de réfléchir qui pouvait paraître un petit peu brusque. Et quand je l'ai proposé, en fait, j'ai proposé à Karim une liste de rubriques, finalement. C'est pas tellement une émission que j'ai proposé. J'ai proposé une liste de rubriques. Sauf qu'à ce moment-là, ils avaient la Ligue 1, totale, quasiment totale, je crois. Non, pas totale. Il y avait Beansport qui avait une partie de droit. Et que ça correspondait exactement à l'écriture qu'ils souhaitaient, puisque à ce moment-là, c'était le grand succès du petit journal. Et finalement, la façon que j'avais d'imaginer ce concept-là et leur façon de bosser depuis un moment concordaient. Donc le lendemain, j'étais chez Cyril Linette et j'ai reçu une offre parce qu'ils ont estimé que c'est ce qu'il fallait maintenant et vite, parce que c'était tard. Il fallait le monter. C'était lourd et c'était tard. Donc cette idée-là, elle est née via en fait une accumulation de rubriques dans ma tête, d'inspiration ou d'imagination. D'inspiration espagnol, avec toute la politique d'El Día Después, qui est une émission, justement, c'est le jour d'après, en espagnol, qui traitait les matchs avec des caméras toutes placées à des endroits inhabituels. On envoie un caméraman, on lui dit tu vas sur le match, tu trouves des histoires, tu ramènes les rushs. C'est-à-dire, tu vas, tu mets ta cam, puis tu vas aller sur Messi, et puis s'il parle à quelqu'un, tu vas regarder la converse, et puis tu vas te tourner, tu vas chercher s'il n'y a pas un mec qui mange un churrasco dans la tribune avec son gamin. Et le mec ramenait des heures de rush. Elles étaient dérushées et à l'intérieur, ils utilisaient ces images pour soit faire un petit sujet justement sur... finalement, ils avaient vu qu'il y avait un sujet à faire sur Granero, parce qu'en fait, il avait trouvé plein d'histoires sur Granero, donc ils montaient un petit module sur Granero et ils prenaient les petites images dans la tribune qu'il avait pour compléter une espèce de medley tribune parce qu'il y avait 9 mecs comme ça sur les 9 matchs. Donc en fait, c'est faire du rush, chercher des histoires et après, tu dissèques pour avoir des modules. Et en fait, c'est ce qu'on a fait.
Et du coup, le rôle du consultant en soi, alors ? Est-ce que les émissions ont besoin d'un consultant ?
Ce qu'il faut savoir sur cette émission, c'est que déjà, le premier changement, il est archi simple. Quand j'ai rencontré Karim Nedjari, je lui ai dit, voilà, combien de personnes on va avoir pour regarder les images ? Il me dit, comment ça ? Et je lui ai dit, voilà, là, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on a comme image ? Donne-moi toute la liste des images qui tombent dans les serveurs à Canal et qui sont produites sur les matchs. Je veux la liste des caméras et le nombre d'heures qui tombent. Là, il me redescend un peu indirectement tout ce qu'on a, les matchs, le signal fait pour Canal, le signal fait pour l'étranger, des caméras isolées. Je calcule qu'au total, on peut ramasser plein d'images. Et là, je tilte que qu'est-ce qu'on voit à la télé pour l'instant ? Des résumés avec des buts, des occasions, des cartons rouges. Je parle dans les émissions. Hein. J'y mets le reste du match. Est-ce qu'il est refouillé derrière ? Est-ce que c'est refouillé, ce qu'on appelle ça, dérusher ? Et donc, je lui ai demandé d'avoir le maximum de personnes possibles pour faire ça. Finalement, j'ai eu deux personnes, Salim Dib et Thomas Figueredo, que je salue. Et je leur ai dit, voilà, vous n'allez pas prendre un plaisir monstre, à mon avis, mais du samedi au lundi même, la première mission, on va tout dérusher, on va tout regarder. Donc, les 10 matchs, OK, les 10 matchs, mais à la vitesse réelle, sans les commentaires, pour entendre les conversations. Et en fait, en faisant ça, plus en matant toutes les caméras isolées, plus les 3 ou 4 tournages, on faisait des reportages aussi, sur des supporters, ouais. sur certains joueurs, sur les femmes de joueurs, voilà. Tout ça était dérushé à la seconde. Au total, ça représentait sur un week-end environ 72 heures d'images à regarder. Donc, quand Karim m'a dit, bah écoute, je peux t'avoir ça, je lui ai dit, bah ok, bah, tu me mets sur mon poste un poste pour dérusher moi-même. Ce qui, en tant que red chef, ne se fait pas, quoi. Je dis, je m'en fous, il faut que toutes les images soient vues. Donc, moi, mon week-end aussi, en partie, c'était de mater ces images. À partir du moment où on scriptait tout ça sur une espèce de Word, on scriptait tout avec des time codes, 13h24, N'Golo Kanté, 2 points, et il dit ça à l'arbitre. Frappe de machin, magnifique passe Verratti, encore magnifique passe Lobé Verratti, etc. Tout ça scripté sur 3 saisons. Donc, en gros, le travail, c'était tout dérusher et avec ça, nourrir Julien Cazard sur des images. Parce qu'en fait, tu es en train de regarder ton match. Ton cerveau, il est coupé en deux. Il y a une partie où tu dois regarder la séquence tactique pour proposer des choses à Eric Carrière ou à Bibay, même si souvent, ils n'ont pas besoin de toi. La deuxième chose, c'est que tu dois réfléchir à dire, tiens, je peux peut-être monter un petit module sur Verratti, mais pour ça, il faut être observateur de son match. Donc, tu regardes le match des 22 acteurs. Ensuite, tu vas regarder, tu vas écouter pour avoir des petits moments de sous-titrage possibles. Quatrième chose, tu vas réfléchir aussi pour Cazard, pour dire, tiens, cette image-là, il peut la doubler ou il peut la détourner de sa réalité. Donc, en fait, ton cerveau, il est divisé en 4 quand tu regardes le match pour nourrir tout le monde. Et à la fin, tout le monde est nourri. Il a son petit montage de 45 minutes d'image. Cazard, il a rêvé, il avait ses 45 minutes d'image. Tiens, regarde-les et regarde ce que tu peux faire avec. Et là, le génie opère, quoi. Voilà. Donc, le principal boulot de cette émission, et ça, c'est ça qui est très factuel, finalement, c'est le dérush, en fait. Donc ça, c'est une culture qu'on a ramenée à RMC Sport, on continue, et qui fait que les films RMC Sport sur les matchs de Champions League sont vus par plusieurs centaines de milliers de gens à chaque fois. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des bouts qu'on a dérushés. Donc là, hier soir, il y avait des petits jusque assez tard, qui vont arriver tard et rentrer chez eux tard, pour dérusher tous les flux qu'on reçoit. Donc on rentre du car régie, puisqu'il y a un car à l'extérieur du stade, et on demande aux équipes de Luc Panier, Sabrina Mesli, de nous envoyer le plus possible de flux, parmi lesquels on va trouver la pépite. L'année dernière, on avait trouvé des discussions de Riyad Mahrez en demi-finale, qui s'embrouillait avec plusieurs joueurs, avec Kyle Walker qui s'embrouillait avec des Parisiens, avec Backer notamment. On avait eu ça parce que sur la cam Spider, c'est la cam que vous voyez sur un fil, là, vous voyez, au milieu de... On dirait qu'il y a un toit sur le parc à ce moment-là, mais il y a une cam filaire là, qui circule, qui fait des beaux plans par-dessus. Bah, cette cam, elle a un micro. Et quand elle s'est rapprochée, nous, il y avait du son dedans. Nous, on l'a dérushée intégralement, cette cam. Donc, ouais. Quand elle s'approche du joueur, le mec qui regarde les images arrête, écoute. Et là, il entend. Il va écouter 3, 4 fois, 5 fois. Il dit, ah oui, c'est ça. Et c'est ça. Et du coup, dans le montage du film, à l'arrivée, t'as plein de petites séquences comme ça. Et J+1 n'était qu'un medley, finalement, de tout ça, plus des reportages qui visaient à côté sur des supporters. Et ça, on a mis la caméra. D'abord, elle était vers vous, Edouard, les joueurs. Ça, on regardait ces images-là. Et nous, les reportages, au début de semaine, on calait des reportages. Boum ! La caméra, elle allait autre part. Pendant le match, la caméra, elle allait sur la femme d'un joueur qui, après, lui débriefait le match à la maison. La femme de Yenin Bakoto lui débriefait les matchs. Ça, il faut avoir du réseau, parler avec les clubs, et ça leur a beaucoup plu de faire des sujets complètement différents, en fait, qui mettent en valeur la passion du foot. Parce que le point commun de tout ça, messieurs, c'est que pour moi, au-delà de l'expertise, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de bonne chaîne, en fait. Donc, la partie émotion, elle était, je trouve, très sous-estimée. Je trouve que ça va mieux, notamment dans les docs qu'on voit partout tourner, sur tous les sports, hein, Jordan notamment, etc. La partie émotion, pour moi, elle est ultra importante.
De l'émotion aux chiffres, il n'y a pas de transition dans Alternative Football. Dans l'épisode 13, nous recevions Antoine Gobin, le plus jeune président d'un club européen. À 31 ans, il est actuellement à la tête de Waasland Beveren, un club de Belgique. Un poste qu'il doit à son statut d'associé à un fonds d'investissement new-yorkais, un fonds qui fut un temps propriétaire des Girondins de Bordeaux. Nous l'avions invité pour en savoir plus sur l'attrait de ces grosses sociétés étrangères envers les clubs de football, notamment français. Voici sa réponse.
On parle beaucoup des fonds américains. Est-ce qu'il y a des fonds français ?
Il y a...
Pourquoi les fonds d'investissement américains investissent en France et il n'y a aucun fonds français qui investit en France ?
Parce que je crois qu'il y a une très différente culture de l'investissement dans le foot, dans le sport en général. Il y a très peu de gens qui voient le sport comme une avenue efficace pour leurs investissements. En France, le sport... Enfin, aux États-Unis, donc moi je suis allé à la fac aux États-Unis et le foot a aidé à me faire recruter. Derrière, quand je passais des entretiens de stage ou d'embauche, le fait que j'ai joué au foot, le fait que j'ai joué dans une équipe, que je passais en moyenne 20-25 heures par semaine sur les terrains ou dans la gym, ou... ça montre un niveau de travail, de teamwork, comme ils appellent. Et en fait... pour les boîtes américaines où on ne compte pas vraiment les heures, ça montre le fait que d'accord, tu es capable d'aller à 20 heures de cours par semaine et faire
et
ça.
Et en plus de ça.
Et voilà.
T'as la discipline.
En fait, c'est un moyen de recruter dans tous les domaines derrière. C'est un moyen aussi, tu mets ça sur ton CV aux États-Unis, j'ai fait tel ou tel sport, j'ai joué, moi une partie de mon CV c'était aussi pour envoyer au coach une vidéo de mes actions. Et ça c'était dans mon CV d'application pour l'université.
Et avoir été et être franco-américain, ça t'aide ?
Oui. Donc, à être français, je ne sais pas si ça m'aurait aidé juste comme ça. Avoir été fan de foot toute ma vie, avoir joué, avoir travaillé dans le foot aux États-Unis aussi. Donc, avoir eu ce côté opérationnel, je crois que ça m'a aidé. Avoir travaillé des deux côtés, donc et du côté investissement et après du côté sportif, je crois que ça m'a démarqué. Après, pour moi, ça me permet aussi de savoir... quelles choses ne peuvent pas marcher dans un club de foot, ou quelles choses est-ce qu'il faut accepter en Europe par rapport aux États-Unis, que voilà, c'est, on a beau vouloir les Américains, c'est une grosse mentalité de ça a marché aux États-Unis où le sport est vraiment un business, où un spectateur c'est un consommateur. Un spectateur en France, un fan, un supporter sera toujours supporter d'abord et après potentiellement consommateur, mais ça sera pas l'inverse. C'est un Américain qui disait si tu essayes de prendre le portefeuille de ton spectateur, tu le perdras pour toujours. Si tu essayes de toucher son cœur, il te donnera son portefeuille.
Si on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, peut-on rire avec les footballeurs ? Et si oui, comment ? Voilà la vaste question à laquelle ils ne sont que peu à s'être frottés. Le dernier en date, c'était Paul de Saint-Cernin. Et pour notre podcast Alternative Football, le lointain cousin de Frédéric de Saint-Cernin a tenté d'y répondre.
En préparant le truc, tu vois, j'ai essayé de réfléchir à un sketch référent sur le sport ou un humoriste qui était particulièrement fort dans ce domaine-là. Je n'ai pas nécessairement trouvé de modèle. Le seul truc qui m'est venu à l'esprit, à la limite, c'est le sketch des Inconnus.
Cela ne nous regarde pas.
Absolument. Tu vois, est-ce que c'est ma culture de la comédie qui est limitée ou est-ce que
non, t'as raison. Moi, j'ai le constat que je fais quand j'arrive, c'est purée, c'est un domaine qui
c'est
touche
universel.
Tout le monde, le football. Allume Twitter, tu vas voir, une truc sur deux, c'est du foot. Et il y a que un gars en France que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julien Cazard, qui fait des blagues dessus. Donc c'est-à-dire que sur la politique, avant la campagne, là, tu vas voir tous les jours des humoristes à la télé, hein, ouais, qui vont te faire des blagues sur Zemmour, sur Mélenchon, ouais, sur trucs, tous les jours. Dans le foot, il n'y a qu'un mec qui fait ça. Les gars, c'est pas possible.
Il ouais, y a une vraie anomalie.
C'est là. Pas possible. On devrait être dans les interviews. On me demande souvent est-ce qu'il faut tuer le père, est-ce qu'il faut évincer Julien pour prendre sa place. Mais je réponds mais les gars, pas du tout. On devrait être 12. Je sais pas si vous vous rendez compte que le foot prend une place de fou à la télé dans la société, qu'il y a un gars qui fait des blagues dessus.
Et ce qui est ouf, parce que tu mentionnes Twitter, mais il y a des mecs sur Twitter qui sont hilarants. C'est-à-dire que c'est un terrain pour l'humour Twitter, et sur le foot particulièrement, parce que forcément c'est partisan, t'as des, mais t'as des mecs qui sont très très bons. Et la représentation que tu pourrais avoir sur les médias mainstream, etc., effectivement...
Alors faut faire très gaffe, l'humour Twitter, et t'es bien placé aussi pour le savoir, est très différent de l'humour dans la vraie vie. C'est un peu comme le gars qui dit à moi, à mes potes, tout le monde me trouve drôle à un dîner, et puis qui monte sur scène un jour, et on se dit, mais c'est un autre métier, mec.
Tu ouais. vois,
et Twitter, c'est quand même des blagues beaucoup, c'est très imagé. Il y a, tu vois, il y a.
Puis c'est ponctuel, tu peux faire un four sur un tweet, et puis après, tu peux être super hilarant, c'est irrégulier, quoi, en fin de compte.
Ouais, mais en volume, tu vois, en volume, le nombre de gens qui prennent la parole en essayant d'être drôle ou en étant
ah ouais.
chasseur versus les, tu vois, l'exposition ah ouais. que l'humour du sport peut avoir.
Ah, mais t'as un Français sur deux qui a déjà fait une blague sur le foot sur Twitter. Quoi.
Mais voilà, tu vois, et je trouve que même si effectivement les mécanismes sont complètement différents, t'as une sous-représentation du sport dans l'humour. En tout cas, c'est la perception tu vois, que j'en ai en ayant préparé un peu le...
Mais parce qu'en fait, ça fait 15 ans que le modèle Canal+, c'est, mais qu'il a marché, il a fait ses preuves. Hein. C'est, on dramatise l'événement. On utilise des termes guerriers, on met des musiques guerrières, je sais pas si tu regardes, l'affrontement, demain, Marseille, Paris reste sur 3 victoires, il faut rendez-vous 21h sur Canal+.
Avec du tacle, avec du...
Les images, ces trucs, les musiques derrière, c'est Gladiator, ou c'est un gros son de hip-hop un peu, tu vois. C'est un modèle qui a fait ses preuves de dramatiser un peu tout ça, et donc tu vas pas ramener un clown à l'intérieur qui va faire pouet-pouet.
Est-ce que la Ligue 1 vaut vraiment 1 milliard d'euros ? Voilà la question à laquelle on souhaitait répondre en recevant Nicolas Manissier, le directeur des acquisitions médias du groupe L'Équipe. Entre autres sujets abordés avec lui, la multiplication des chaînes de télévision qui se partagent les droits, notamment en France, ou encore les conséquences de la disparition de la chaîne Mediapro Téléfoot. Voici un extrait de l'épisode 17 d'Alternative Football.
À un moment donné, tu te retrouvais avec 6 diffuseurs payants. Et puis t'as une audience plus dure, t'as une audience qui accepte moins de dépenser pour le sport déjà à la base.
Non mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire d'avoir, d'être obligé d'être abonné à Canal+, beIN Sport, RMC Sport, Eurosport, Mediapro, et bon bah alors Mediapro était remplacé par Amazon. Non mais enfin 5, il n'y a pas la place pour 5. Ouais. Donc là, en fait, tout à l'heure je disais, eux quand ils ont fait défaut, ça a quand même calmé tout le monde. Ouais. Et tant mieux. Parce qu'à un moment donné,
c'était
il faut
nécessaire.
Que ça se rationalise un peu. Donc maintenant, l'étage suivant de la rationalisation, bah, c'est oui, le foot, ça doit être moins cher. C'est comme ça. Il faut que ça se détende. Notamment parce que ça fait beaucoup de mal à tous les autres sports. Et le foot prend 90%
ouais, de la valeur.
De la valeur des droits. Donc nous, on en profite. Hein.
Ce serait quoi le montant, un montant des droits de la Ligue 1 raisonnable?
C'était un peu la question
mais
de
c'est
départ.
Pas la, c'est
de...
pas juste la Ligue 1, ouais. C'est la Ligue 1 plus la Ligue des Champions plus l'équipe de France. Enfin, c'est quoi
la valeur du
premium,
foot premium.
Qu'est-ce que ça doit être la valeur?
Mais ça, les droits de télé de l'équipe de France, c'est quoi? J'ai entendu, c'est 35 millions d'euros, c'est ça ou pas?
Alors, sur le cycle précédent, l'équipe de France, chaque match valait 3,5 millions de droits. Il faut savoir que sur le cycle d'avant, c'était 4,5 millions.
Oui, ça a baissé parce que. Voilà.
Et là, l'appel d'offres, il a eu lieu, il est infructueux. Hein. Les prochains
oui,
matchs.
Ils ne veulent pas, je crois que c'est ça, le partage. Ouais.
Ben non, mais c'est surtout que TF1 M6, ils ont proposé 2 millions d'euros par match. Et puis, ils ont accepté, de ce qu'on, voilà, de ce qu'on sait, de ce qu'on ouais. entend, de monter à 2,5 millions. Mais, en fait, je
donc,
le dis
toi,
comme
tu
je
penses
le pense.
Que ça va être plus sur un schéma baissier, quoi. Mais,
oui, et c'est assez logique. Alors, c'est
moi,
dur.
Je trouve que ça paraît logique, mais oui. C'est.
C'est dur pour la FFF parce que finalement, l'argent qui rentre, comme les contrats de sponsors, ça vient financer le foot français, les clubs, etc. Mmh. Donc, quelque part, typiquement, l'équipe de France, elle pâtit de la décroissance des droits du foot. Peut-être plus que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui, pour l'instant, ils s'en sortent encore assez correctement, quoi. Mais voilà, il faut juste qu'il y ait un rapport avec ce que ça vaut économiquement, quoi. C'est pas de spéculation,
et,
le foot.
Et donc, du coup, la Ligue 1, ça vaut quoi?
Mais je sais pas ce que la Ligue 1 vaut, je sais
c'est
pas.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est trop difficile.
Il y a trop de... J'ai pas fait les maths, j'ai pas fait les feuilles Excel pour vous dire combien ça vaut. Mais ça vaut pas un milliard.
Voilà, ça
aujourd'hui,
vaut.
Ça vaut pas un milliard, c'est tout. Okay. Et la Ligue des Champions, je pense.
Elle vaut pas 300.
Elle vaut pas 300 millions d'euros.
Grosso modo, les tarifs que Canal proposait au départ, c'était cohérent. On peut penser qu'ils avaient fait des chiffres.
Eux, ils l'ont
avec
fait.
Les abonnements, en plus, ils ont une base d'abonnés énorme. Ils ont dit, plus ou moins, c'est cohérent. Et après, tu peux avoir un petit surplus de 10% en fonction de si tu as une star, Neymar, Messi et tout ça, tu peux aller là. Ouais. Mais sinon.
Mais moi, je pense que Canal, c'est vraiment les meilleurs pour tirer le maximum d'une compète comme la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions, d'ailleurs.
D'abonnés où tu dis, c'est pour ça. C'est ça.
Et puis, t'as aussi...
Tu peux pas arriver comme ça et dire que...
Non, mais ils ont 5 millions d'abonnés encore.
et puis, t'as une expérience aussi dans ce... Enfin, ça été... Ils ont aussi le droit payant, le sport payant à la télé. Ils ont aussi un peu construit le truc. C'est-à-dire que, tu vois, c'est eux qui ont fixé les premières règles du marché. Donc, t'as aussi quelque chose qui se remplace pas, c'est l'expérience. Plusieurs fois, ils ont été, entre guillemets, mis en difficulté. À chaque fois qu'il y a un nouvel entrant, on dit oh, c'est terrible pour Canal, et tu te rends compte que, bon an, mal an, le droit revient, ils les récupèrent, ils passent un
monde
de distrib.
Ils travaillent très dur.
Ouais, ils savent plutôt ça, bien faire.
Ouais, c'est sûr. Et eux, voilà, ils ont certaines qualités qui vont au-delà d'être sympas et de connaître tout le monde. Ouais. C'est qu'ils font un vrai travail de fond, de lobbying, et ils ne s'avouent pas vaincus parce qu'ils ont perdu une bataille. Ben, de toute façon, ils savent qu'ils sont là pour le long terme. Bein, maintenant, ça y est, ils sont à l'équilibre. Parce qu'ils ont un contrat de distribution avec Canal+, qui leur permet d'être à l'équilibre.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Et voilà, c'est la fin de ce petit best-of. Alternative Football revient plus fort en 2023. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner de la force en vous abonnant à notre page LinkedIn, en laissant un commentaire ou une bonne note sur votre plateforme d'écoute, ou directement en nous écrivant pour nous faire part de vos commentaires ou de sujets que vous aimeriez voir traités dans un prochain épisode. Bonne fête et à l'année prochaine!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.